Bon, on n'est presque pas en retard. Ok, alors, je suis sûr qu'il y en a au moins la moitié d'entre vous qui a déjà vu ce que j'avais à raconter. Vous êtes priés de ne pas raconter la fin aux autres. On a longuement réfléchi sur le titre de la conférence, on a mis ça sur le programme, parce que celui-là, il était un peu trop violent. Et puis surtout, il n'est pas facile à expliquer sans les sous-titres. C'est-à-dire comme ça, il a l'air gratuitement méchant, alors qu'une fois sous-titré, il l'est moins, il est juste drôle. Donc du coup, on est resté sur ça, parce que c'est tarte, ça craint rien. Mais c'est le même, en fait. Il faudra chercher lequel des deux est définition, lequel des deux est en jeu, entre Voltaire et Cro-Magnon. Bien. Alors vous allez voir, j'ai triché, j'ai mis très très peu de diapos. Ça m'empêchera pas de faire une heure ou une heure et demie. Mais c'est juste que du coup, ce sera pas écrit. Vous pourrez pas lire ce que j'ai à dire, faudra écouter. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude, donc on a plutôt une mémoire visuelle, ça va pas marcher. Bien. Histoire de vous raconter sommairement le plan. Je vais revenir rapidement sur ce que c'est qu'Internet, histoire qu'on évacue tout de suite un certain nombre de poncifs qui sont faux. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est qu'une société, pas au sens entreprise, au sens les grands singes qui habitent tous autour du même rocher. On verra comment, à partir de ces deux briques-là, on peut essayer de lire certains événements d'actualité. Et puis de là, enfin, on essaiera de comprendre un peu les enjeux autour de la neutralité du réseau, dont je ne donnerai même pas vraiment de définition. Vous verrez que la définition sera en général en transparence derrière, dans les sous-jacents qui sont à comprendre. Bien. Alors, normalement là-dessus, je vous fais 20 minutes. Sur Internet est un réseau, ce qui ne nous avance pas à grand-chose. C'est un patchwork, c'est un réseau passif. Et la partie la plus intéressante est en périphérie. Si je vous détaille ça, si vous avez en tête cette idée, oui. Oh, l'association dont je suis président, qui est un fournisseur d'accès Internet associatif, qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France. On fournit de l'accès Internet depuis 3 ans avant Gonadou, en gros. Si vous avez en tête cette image que Internet est un espèce de très gros réseau mondial, un gros backbone, qui serait à peu près la propriété de Internet Incorporated ou de la Internet Corporation, auquel se raccrochent d'autres opérateurs et où donc Orange ou Free ou FDN ou n'importe qui d'autre achèterait de l'accès au grand réseau Internet. Où sur ce grand réseau Internet seraient raccrochées de petites branches que sont Free, Orange, Google, YouTube, etc. Cette image est absolument, totalement, entièrement fausse. Tout est faux là-dedans. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez comprendre comment fonctionne Internet, il faut que vous ayez beaucoup plus en tête, non pas l'idée d'une épine dorsale avec des réseaux périphériques, mais l'image d'un patchwork. Internet, ce sont 40 000 réseaux de tailles très diverses. Certains sont immenses, d'autres sont microscopiques, qui sont interconnectés entre eux en respectant un certain nombre de normes. Chaque petit bout de ce réseau est un fragment d'Internet. Internet, ce n'est pas un réseau en soi, c'est l'union de 40 000 réseaux interconnectés entre eux. Quand on éteint un de ces 40 000 réseaux, alors si on éteint Orange, Internet devient plus petit. Il n'est pas en panne. Les 39 999 autres réseaux vont très bien. Il est simplement plus petit. Il y a un bout du réseau qui a disparu. Exactement comme vous pourriez comprendre le réseau routier. Si on enlève une excroissance du réseau routier que représente par exemple la Grande-Bretagne, qu'on atteint via des voitures et des trains en passant sous l'eau. Si on enlève la Grande-Bretagne, le réseau routier n'est pas en panne. D'accord ? On peut toujours aller de Bordeaux à Toulouse en voiture, ça se passe gentiment. Il n'y a juste plus de Grande-Bretagne. De la même manière, Internet est une somme de 40 000 réseaux interconnectés entre eux. Alors c'est plus compliqué à visualiser parce que ce ne sont pas des réseaux qui se définissent géographiquement. Donc quand on essaye de dessiner les 40 000, on se rend compte qu'ils se recouvrent tous les uns les autres géographiquement. on se rend compte que la frontière entre ces réseaux n'est pas aussi simple que de la belle géographie dessinée à plat sur une carte. Mais c'est bien que ça. Ce sont 40 000 réseaux autonomes. Une des conséquences de cette chose-là, alors c'est une propriété qu'on retrouve parfois dans le vivant, c'est assez rare, mais ça se trouve chez certains êtres, typiquement chez les corails, je crois. Quand on coupe Internet en deux, vous prenez votre tissu de 40 000 réseaux, puis vous coupez en deux, plaf, avec 25 000 d'un côté, 15 000 de l'autre, vous avez deux morceaux, vous avez deux Internets, tous les deux parfaitement fonctionnels, qui sont ni l'un ni l'autre en panne. Attention, ça ne veut pas dire que tout marche. Si vous êtes du côté A et que vous voulez aller voir un site web dont le serveur est du côté B, vous ne pourrez plus. Mais le serveur fonctionne, tous les gens qui sont du côté B peuvent le voir, votre accès à Internet fonctionne, tous les gens qui sont du même côté que vous, vous pouvez aller les voir. Vous avez deux Internets séparés, si on coupe en deux. C'est assez rare chez les êtres vivants. Si vous regardez sur un être humain, ça ne marche pas comme ça. En général, quand on coupe un être humain en deux, il y a au moins une des deux moitiés qui est morte. Parfois les deux. Vous avez tous les bons exemples en tête. Si je coupe là, normalement la moitié qui tient le micro est morte. Alors que la grande moitié qui reste a une chance de survivre. Alors que si on coupe de manière horizontale à peu près par là, en général, les deux moitiés meurent. Et donc c'est très particulier. Dans tous les réseaux d'autrefois, dans tous les réseaux qu'on a fabriqués avant Internet, on était toujours dans des réseaux qui ressemblaient à l'être humain. C'est-à-dire on était toujours dans des réseaux où quand on coupait en deux, il y avait la partie du réseau où restait le cœur, qui est en général le centre du réseau, qui était... Alors sur un réseau conçu par des polytechniciens type France Télécom, le cœur est à Paris. Donc il y a la moitié du réseau qui contient Paris, qui marche encore, et la moitié du réseau qui contient tout le reste, qui ne marche plus. Donc Internet ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Si vous avez cette image d'un grand serveur auquel se raccordent des tas de petits clients passifs, ça c'est parfaitement faux, c'est l'image du Minitel. C'est bien le fonctionnement classique du Minitel, c'est pas du tout le fonctionnement d'Internet. Ensuite, si vous voulez comprendre Internet, il faut comprendre que c'est un réseau qui est structurellement passif. Ça a des tas d'effets, ça, dans son histoire, et ça a des... C'est vraiment un des fondements techniques très forts du réseau. Tous les réseaux précédents Internet étaient plus complexes que lui et faisaient des choses intelligentes. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est le téléphone. J'aime bien utiliser cet exemple-là parce que vous le connaissez tous. Le réseau téléphonique est un réseau intelligent, avec des terminaux bêtes. Qui parmi vous a connu le téléphone à cadran qui tourne, qui fait cri-cri-cri-cri-cri-cri en revenant ? Ouais. Vous savez que ce téléphone-là, le machin qui fait cri-cri-cri-cri-cri en revenant, vous le branchez sur votre bidule box, il marche encore. Bon. Le réseau téléphonique est structurellement très bête. Enfin, le terminal téléphonique est structurellement très bête parce que le réseau téléphonique est intelligent. Quand vous composez un numéro, vous savez ce que ça fait quand ça fait cri-cri-cri-cri-cri en revenant ? Ça décroche et ça raccroche. D'accord ? Vous voulez composer un 2, vous faites tac-tac dessus. Vous décrochez, vous raccrochez deux fois. Ça compose un 2. Ou alors c'est 2 pour le 1 et c'est 3 pour le 2, je sais plus. C'est un truc dans ce goût-là. Mais c'est un truc dans ce goût-là. C'est juste, ça compte le nombre de fois que vous décrochez et vous raccrochez en rythme. Et c'est ça qui fait le numéro. Dans le réseau téléphonique, quand on voulait faire un nouveau service, un truc méga innovant, genre le signal d'appel. C'est super con le signal d'appel quand même. C'est le machin, quand quelqu'un essaye de vous téléphoner, plutôt que ça sonne occupé pour lui, ça fait bip pour vous. On ne parle même pas encore du fait que vous puissiez prendre le deuxième appel, c'est beaucoup plus complexe, mais juste que vous ayez un bip pour vous prévenir. C'est pas votre téléphone qui fait bip. Votre téléphone, il est ultra con. Il ne sait rien faire. C'est juste un micro et un haut-parleur. Il ne peut pas tout seul décider de faire bip, il ne sait même pas que quelqu'un essaye d'appeler. Et donc quand on veut créer le signal d'appel, on modifie le réseau. Et donc le signal d'appel, il marche d'abord dans telle centrale téléphonique et que dans celui-là, pas dans les autres. Et puis il faut modifier tous les équipements du réseau pour que petit à petit le signal d'appel fonctionne dans toute la France. Quand on veut faire en sorte que vous soyez capable de prendre ce deuxième appel et de basculer d'un appel à l'autre, Il faut modifier tout le réseau. Et on passe des heures et des heures et des mois et des années à réfléchir à comment on va faire pour modifier tout le réseau sans modifier les téléphones. Eh oui, parce qu'il y a quand même 50 millions de téléphones installés, c'est une place, il faut les changer. Donc on fait en sorte que les téléphones ne changent jamais et de toujours remettre à niveau le réseau. Alors ça a un avantage, c'est que c'est super simple en termes d'ingénierie. Parce que tout est sur le même modèle, on contrôle tout, il n'y a pas des téléphones bizarres de brancher, et le réseau, on sait comment on le fait évoluer, c'est un certain nombre de points sur lesquels on a la main. Mais ça veut dire que si j'ai une très grande idée en matière de téléphonie, si j'ai l'idée d'un produit nouveau, genre si j'avais voulu inventer le signal d'appel, je n'aurais pas pu l'expérimenter. Si j'avais inventé ce produit-là, j'aurais été voir avec ma petite invention, messieurs Alcatel et France Télécom, et puis je leur aurais expliqué comment c'était trop bien mon idée, et puis ils auraient été d'avis de le faire, ou pas. Et n'ont lieu sur leur réseau que ce qu'ils ont été d'avis de faire. On leur a demandé la permission pour chaque petit bout innovant. La conversation à trois, ben, il a fallu qu'ils y réfléchissent, et il a fallu que ce soit eux qui décident si on le faisait ou pas. La visioconférence, France Télécom a fait des expérimentations pendant des décennies sur la visioconférence, est toujours arrivée à la conclusion que les gens ne voulaient pas de visioconférence. Hein, vous savez bien, les gens ne veulent pas discuter face à une webcam. D'ailleurs, vous n'avez pas de webcam, et il y a des webcams sur aucun ordinateur. Voilà. Donc c'est bien que les gens n'en voulaient pas, les ingénieurs de France Télécom sont formels, ils ont essayé pendant 30 ans, les gens n'en veulent pas. Donc on a affaire à un réseau qui est structurellement passif dans le cas d'Internet, c'est-à-dire que c'est le contraire du téléphone. Ah, ça c'est triste. C'est vraiment le contraire du téléphone. Pour le coup, il faut bien comprendre, Internet c'est un réseau qui transporte des paquets. Il prend un petit paquet d'informations à un point A, il lit l'adresse de destination et il transporte jusqu'au point B qui est l'adresse de destination. Après, le point B décidera peut-être d'envoyer un autre paquet contenant d'autres informations vers, curieusement, le point A d'où c'est venu au départ. Mais le réseau s'en fout. Le réseau réfléchit pas plus loin qu'un paquet. Il prend un paquet, il l'amène à destination. Il prend un autre paquet, il l'amène à destination. Du coup, ce que contient ce paquet qui est transporté n'a aucune espèce d'importance pour personne dans le réseau. C'est ce qui fait que quand on a inventé un service complètement anecdotique et périphérique qui n'intéressait personne. Enfin, ça intéressait une poignée de chercheurs en physique nucléaire du côté de Genève. Ils avaient besoin d'un système pour mieux indexer, enfin pour repérer, c'est des milliers de chercheurs qui font de la recherche sur énormément de sujets. Ils ont besoin d'indexer de manière efficace leurs publications scientifiques et de pouvoir assez vite naviguer dedans. Donc ça, afficher à l'écran des publications scientifiques, ça faisait longtemps qu'on savait faire. Eux, ce qu'ils ont inventé, c'est un mécanisme qui permet d'afficher une publication scientifique qui n'est pas sur votre poste et de pouvoir en un clic aller consulter une publication scientifique qui n'est pas non plus sur votre poste mais qui est encore sur un troisième ordinateur. Et donc il y a un mécanisme de notation où au lieu de faire une référence bibliographique en disant I3E Proceedings numéro 38-712 page 1837 à 1842, vous notiez la référence de l'article sous une autre syntaxe un peu plus technique, mais un peu moins jolie à l'œil, et où quand vous cliquiez sur la référence, ça vous affichait l'article en question. Donc ça s'appelait du HTML, et le protocole d'interconnexion s'appelait du HTTP. Donc Hypertext Markup Language et Hypertext Transport Protocol, ce que vous appelez aujourd'hui le web. Ça, ils l'ont testé. Il faut bien comprendre, le premier serveur web, c'était une machine qui tournait un OS qui devait être Next Step, qui tournait dans un laboratoire du CERN à Genève. Le premier client web, on dit navigateur de nos jours, le grand ancêtre commun à Firefox et à tous les autres, il tournait probablement sur une autre Next Step, aussi au CERN à Genève, et ces deux machines discutaient par Internet. Et quand ils ont allumé le premier serveur web, donc que la norme n'existait pas, enfin qu'il ne venait à l'idée de personne qu'un jour il puisse y avoir une guerre des navigateurs, il ne venait à l'idée de personne qu'un jour ça puisse servir de support publicitaire et que les députés parlent de taxer ces supports publicitaires pour essayer de renflouer les caisses de l'État. On parlait pas de ça. On parlait de deux pelés, trois tondus qui ont eu l'idée d'une norme pour s'échanger des articles scientifiques. Quand ils ont allumé le premier serveur web, immédiatement, n'importe quel ordinateur, n'importe où sur la planète, équipé d'un navigateur web, il se trouve qu'il n'y avait qu'un seul logiciel, c'était eux qui l'avaient écrit, mais il pouvait être n'importe où sur la planète. C'est-à-dire qu'il pouvait partir avec son petit logiciel sur son disque dur transportable de 18 kilos. Non, c'est pas vrai, ils étaient plus petits que ça à l'époque. Aller se brancher à Paris, et puis bah, de Paris, consulter son article qui était à Genève. Le réseau Internet transportait les paquets sans comprendre ce que c'était. Internet était habitué à des technologies beaucoup plus pointues et beaucoup plus complexes, du type Gopher, que plus personne ne connaît, j'espère. Donc il y avait déjà des tas de protocoles qui circulaient sur le net. Il y avait FTP, il y avait Gopher, il y avait le mail, il y avait les news, il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas le web, ça n'existait pas. Et quand le premier client web s'est connecté au premier serveur web, c'est passé par Internet sans rien changer au réseau. Très exactement le contraire du signal d'appel. Simplement parce que le réseau est passif. C'est pas le réseau qui fait ce boulot-là. Alors après, effectivement, plus il y a de services sur le réseau, plus on est obligé de dimensionner le réseau en fonction des services. Mais on n'a pas besoin de modifier le réseau pour permettre le service. Si on transpose ça, quand Skype a lancé son produit, vous savez, ce logiciel propriétaire qui vous permet de communiquer et potentiellement d'être écouté par les auteurs du logiciel. Quand ils l'ont lancé, parce que personne ne sait ce que ça fait. Je peux prétendre n'importe quoi sur ce que ça fait, de toute façon je ne peux pas vérifier. Quand ils ont lancé leur logiciel pour la première fois, le service a fonctionné immédiatement, du jour au lendemain, sur toute la planète, sans rien demander à personne, sans obtenir la moindre forme d'autorisation de rien du tout, sans modifier le réseau. Il fonctionne que vous ayez un accès Internet par ADSL chez machin, ou par câble chez bidule, ou par fibre optique chez truc, ou en bas débit chez quelqu'un d'autre, que ce soit au Zimbabwe, en Polynésie, en France, aux États-Unis, ça marche partout pareil. C'est la grande force d'Internet. Le réseau est fondamentalement, structurellement passif. Et c'est parce qu'il est très simple qu'il permet de faire n'importe quoi. Il transporte juste bêtement des données. Si le réseau avait été pensé de manière optimale, par exemple pour transporter de manière optimale de la vidéo, alors il aurait transporté le texte de manière dramatiquement inefficace. S'il avait été pensé pour transporter du texte de manière efficace, alors il aurait été monstrueusement mauvais sur la vidéo. S'il avait été pensé pour faire du broadcast, c'est-à-dire pour faire de la télévision, alors il ferait très bien de la télévision, mais très mal de la discussion point à point. Il est pensé pour rien, ce réseau. Il transporte des petits bouts de données d'un point à un autre. Et la conséquence du fait qu'il est structurellement passif, c'est le fait que si vous voulez que ça rende un service utile, alors il faut que l'intelligence soit en périphérie. Dans le réseau téléphonique, si vous voulez qu'il y ait un service utile, il faut que l'intelligence soit dans le réseau. Si vous voulez faire de la conversation à trois, il va falloir que ce soit le réseau qui se débrouille. Parce que le téléphone, ça a été pensé vers 1850 comme étant un haut-parleur et un micro branchés sur deux fils qui font une longue distance, avec des petites dames qui font les branchements entre les fils sur le chemin, et où ça fait toute la longueur. Et où du coup, bah, si vous voulez parler à trois, c'est pas simple. À deux, c'est facile. Quand je parle dans le micro, ça ressort dans le haut-parleur de l'autre, et réciproquement. Ça se passe assez bien. La grande question, c'est quand on parle à trois, comment ça se fait? Comment ça se passe? Parce que quand je parle dans le micro, il faut que ça sorte dans les haut-parleurs des deux autres, donc on voit bien, là il y a un branchement Y. Mais quand chacun parle dans son micro, il faut que ça ressorte dans les haut-parleurs des deux autres, donc il faut des Y dans tous les sens. On sent bien que le branchement est merdique à faire. Et donc il faut un appareil dans le milieu qui rende le service. Dans le monde Internet, on fonctionne différemment. Quand on veut inventer la conversation à trois, on fait ça de manière normale en utilisant le réseau comme d'habitude. C'est-à-dire que si on avait dû inventer ça, ben on dirait simplement que celui qui veut l'abonnement conversation à trois, il a deux lignes de téléphone. Et le bout intelligent, il n'est pas dans le réseau, il est chez lui. Et c'est lui qui mélange ces deux lignes de téléphone pour appeler deux correspondants en même temps. C'est comme ça que fonctionne le mécano Internet. On fait en sorte que la partie intelligente soit en périphérie du réseau. La conséquence de ça, c'est le fait qu'on peut créer n'importe quel nouveau service sans rien demander à personne. Des services sur Internet, il en est tout le temps. Les derniers un peu à la mode, genre Twitter, ça date d'il n'y a pas très longtemps. C'est pas vieux Twitter, ça doit avoir 4 ans. Ça n'a rien demandé à personne. Dire aujourd'hui, on se dit, c'est une grande boîte. Donc on imagine bien le patron de Twitter qui passe un coup de fil au patron d'Internet pour lui dire, cher patron d'Internet, je voudrais lancer un nouveau service, tiens, je t'achète l'autorisation pour 50 millions de dollars. Sauf que Twitter, quand c'est né, ça n'avait pas 50 millions de dollars. C'était juste rien, c'était une idée. Donc ça, ce sont les éléments clés à retenir sur le réseau Internet. Il a cette caractéristique fondamentale de n'avoir pas de centre, c'est un patchwork. Chaque petit bout du réseau est autonome. Il est fondamentalement passif. Et la conséquence du fait qu'il n'ait pas de centre et qu'il est passif, c'est que tout ce qui est intelligent sur le net est en périphérie du réseau. Vous croyez le contraire à cause du cloud, l'informatique dans les nuages, comme disent les marketeurs français qui traduisent assez mal l'anglais. C'est pas vrai. Vous croyez que votre ordinateur est en périphérie et que le cloud est au centre du réseau. C'est faux. Il est en périphérie aussi. Le réseau, c'est ce qu'il y a entre vous et la machine de Google. Mais la machine de Google, elle est en périphérie du réseau. Elle n'est pas plus et pas moins dans le réseau que mon ordinateur qui reste allumé à la maison. Donc cette vision de dire « j'ai mis mes données sur le réseau » est fausse. Vous avez mis vos données sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, mais qui est de l'autre côté du réseau. Il est en périphérie, il n'est pas au cœur. Bien. Pour étayer mon propos, j'ai besoin d'essayer de vous expliquer très rapidement, et alors que je ne suis pas sociologue, ce que c'est qu'une société. Et ça ne va pas être simple. Alors du coup, je vais prendre des idées assez basiques, en tout cas des suffisamment simples pour que moi j'arrive à les manipuler. Une société, c'est la somme des interactions entre les individus. Ça a l'air bien comme définition, ça. On sent bien, ça ne s'applique pas au poil à frire. Ça peut s'appliquer pas qu'aux hommes, ça s'applique à pas mal de variétés d'animaux, mais après tout, les animaux font société. Les grands singes qui se regroupent autour du rocher font une société. Et donc la société humaine se caractérise essentiellement par ce que les humains racontent. Ça fait très longtemps qu'on se le raconte par oral, ça fait quelques millénaires qu'on se le raconte par écrit, et ça fait quelques années qu'on se le raconte par écrit électronique. Mais une société se caractérise essentiellement par les échanges entre individus. Les échanges de fluides visant à continuer l'espèce rentrent peu dans cet échange-là, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont de végétaux. Qui ont ce type d'échange sans pour autant former une société. Cependant, ça joue un rôle clé. On sent bien que dans les discussions entre humains, la question de savoir avec qui on va se reproduire, ça occupe une grande partie du temps. Donc parler, c'est au cœur de la société. Comprendre ce que c'est qu'une société, ce sont aussi des références. Là, je suis capable de vous parler parce que nous parlons la même langue, ce qui veut dire que nous utilisons les mêmes mots pour désigner les choses, que nous utilisons les mêmes concepts pour structurer notre pensée, que nous utilisons les mêmes structures de phrases pour articuler ces concepts, pour former une idée, ça nous y fait un paquet de trucs en commun. Hein. C'est quand j'ai dit poil à frire, tout le monde voyait ce que c'était, alors que je n'avais pas de poil à frire à la main pour vous montrer. C'est donc une référence commune. Même ceux d'entre vous qui ne font pas la cuisine savent ce que c'est. Les références peuvent être beaucoup plus fines. Pour le coup, si on était en train de parler politique et qu'à un moment j'évoque la nécessité de manger des pommes, voilà, ça fait glousser une bonne moitié de la salle. Ceux qui gloussent pas sont trop jeunes, tant pis pour eux. Normalement, cette génération-là, si on leur évoque Super Menteur, ça peut leur parler aussi. Ça, ce sont des références au sens culturel du terme. C'est-à-dire que ce sont des mots que j'utilise pour désigner quelque chose d'autre que les mots dont je parle. Il n'était absolument pas question du goût de la golden par rapport à telle autre variété de pommes ou de faire des tartes. Hein. Quand je parlais de manger des pommes, on parlait bien de politique. C'était le slogan clé de la campagne électorale au présidentiel de 95 pour les plus jeunes. C'est ce qui a permis à Papa Chirac d'être élu. C'est une référence, c'est simplement le fait qu'on est d'accord et qu'on associe un certain nombre de souvenirs à la même idée et qu'on peut manipuler cette idée pour réfléchir ensemble. Il y a une des approches de la société et de la façon dont elle se manifeste qui est l'approche évolutionniste. Alors, faut pas prendre le darwinisme à l'envers. Hein. Le darwinisme, c'est essentiellement du hasard et de la chance. C'est-à-dire, c'est du hasard qui fait que tout change en permanence. Et puis, ceux qui ont la chance d'avoir un changement qui fait que ça marche mieux vont avoir plus tendance à s'adapter que ceux qui ont la chance d'avoir un changement qui marche moins bien. C'est-à-dire que tous les êtres humains étant subtilement différents, ceux des deux qui ont moins de musculature en temps de guerre ont plus tendance à mourir. Donc, moins tendance à faire des enfants. La société est une façon pour l'espèce humaine de se montrer la plus adaptée par rapport aux autres grands singes parce que elle nous permet de mieux décrire les dangers, de mieux décrire un certain nombre de problèmes, donc de survivre avec plus de chances s'il y a un tigre. Donc ça fait que nos petits singes à nous ont tendance à faire d'autres petits singes plus facilement que chez les autres grands singes. C'est une forme d'adaptation. La façon dont l'espèce humaine évolue depuis quelques centaines de milliers d'années est essentiellement liée à la structure de la société. C'est une des grandes différences entre l'être humain et l'huître. Vous voyez, pour s'adapter, l'huître, elle s'adapte super bien. Hein. C'est-à-dire que quand la température de l'eau, la température moyenne de l'eau dans le bassin où vivent les huîtres bouge de 2 degrés, vous avez 80% de la population qui disparaît. Et les 20% restants, c'est les 20% qui sont capables de supporter qu'il fasse un tout petit peu trop chaud ou un tout petit peu trop froid en moyenne dans l'eau. Et ces 20%-là vont se reproduire et vont se rediversifier et vont repeupler le bassin. Simplement, pour que la société des huîtres se soit adaptée à un changement de la température de l'eau, il aura fallu 20, 30, 40, 50 générations pour que ne survivent plus que à peu près exclusivement des huîtres qui portent les gènes qui permettent de vivre à cette température 2 degrés plus élevée. Si ça rebaisse de 2 degrés, on joue dans l'autre sens. C'est-à-dire que toutes les huîtres qui, en plus d'avoir le gène qui permet de vivre à plus 2 degrés, ont conservé le gène qui permettait de vivre autrefois à moins 2 degrés, celles-là survivent et reprolifèrent, alors que celles qui avaient perdu le gène qui permettait de vivre à plus froid redisparaissent. Donc l'huître s'adapte à son environnement sur le cycle des générations. L'être humain s'adapte à son environnement par une adaptation culturelle. Vous êtes capable, lorsque c'est le cas de très peu de fleurs et de très peu d'animaux, de naître dans un pays et d'aller vivre dans un autre dont les conditions climatiques sont radicalement différentes, sans avoir besoin d'attendre 10 ou 15 générations que vos arrière-arrière-arrière-petits-enfants aient appris la langue. Ça, c'est ce que nous permet le fonctionnement social. C'est-à-dire que comme vous n'allez pas vous retrouver tout nu, tout seul, en pleine forêt l'hiver, mais plutôt entouré par des gens qui vont vous expliquer qu'il ne faut pas dormir là, monsieur, il fait trop froid, ça vous permet de vous adapter plus vite. En gros, la société est un outil d'évolution. C'est un outil retenu par l'évolution, c'est ce qui nous permet de nous adapter de manière plus rapide qu'une évolution génétique. L'être humain s'adapte à des changements autour de lui, potentiellement très forts, sans avoir besoin d'évoluer génétiquement. Juste en faisant évoluer ses technologies, en faisant évoluer sa médecine, en faisant évoluer tout un tas de petites choses. Donc, Internet changeant la façon de communiquer entre les gens, ce dont vous êtes certain, de vous en servez bien pour communiquer avec d'autres gens, change les interactions entre les hommes. Or, on a bien vu, les interactions entre les hommes, c'est la définition de la société. Donc, changer les interactions entre les hommes, c'est changer la société. En bien ou en mal, je ne sais pas. Et ce changement de société, il est forcément à mettre en rapport avec la façon dont les humains font société de manière habituelle. et donc avec pourquoi les humains éprouvent le besoin de changer de société. Et donc la question qui est autour du darwinisme et de l'évolution va devenir quelque chose d'intéressant. Alors, celui-là, pour ceux qui sont déjà venus ces derniers temps à l'une de mes conférences, ils le connaissent déjà. C'est comment ça marche un internaute. Parce que ça permet assez vite de comprendre pourquoi on n'a pas tous la même vision du réseau. Alors un internaute, ça passe par, c'est à peu près 7 phases, elles ne sont pas très très bien séparées. La première des phases étant un acheteur. Alors je ne différencie pas, parce que c'est juste une différence de point d'entrée, l'acheteur et le kikoulol. Ce sont deux étapes qui sont plutôt au début. Alors la phase kikoulol, elle est super, super facile à décrire. On s'échange des vidéos de chats qui se cassent la gueule et qui sont super marrantes. On voit circuler des PowerPoint avec des blagues plus ou moins scato, plus ou moins crades. On se raconte des blagues trop drôles dans plein de forums où ça n'a rien à faire. On trouve des smileys animés super fun pour dire quand on est content ou quand on n'est pas content. Etc, etc. Enfin bref, vous connaissez tous visiblement. La phase acheteur, elle est généralement chez les gens un tout petit peu plus adultes. C'est le moment où on rentre de chez Darty Fnac en ayant acheté Internet. Vous voyez, c'est le jour où on a acheté une poêle à frire, un appareil à raclec et Internet. Puis on pose tout ça sur la table du salon en disant au fils de la famille, tiens, installe donc Internet pendant que je fais une raclette. Ouais, c'est la même chose, j'ai acheté Internet. C'est en général dans cette phase-là que, alors en plus de cette idée qu'on met très longtemps à retirer de la tête des débutants de ces patons d'Internet, c'est-à-dire que tu as acheté un outil qui te permet de travailler dans un groupe, mais le groupe n'est pas à toi. C'est un peu compliqué, des fois ça peut mettre du temps. Et en général, c'est une phase pendant laquelle on transpose sur le réseau simplement une attitude de consommation passive qu'on aurait eu en dehors. C'est la phase pendant laquelle on se rend compte que pour acheter un billet de train, on n'est pas obligé d'aller faire la queue pendant 1h30 à la gare. On peut l'acheter en ligne. En général, malgré les efforts de la SNCF, on finit par réussir à acheter un billet de train. Et malgré les efforts des fabricants d'imprimantes, des fois on arrive même à l'imprimer. Ce qui fait qu'on pourra aller prendre le train sans même devoir pas discuter pendant une demi-heure avec le machin automatique tactile qui marche jamais en panne. Donc ça, c'est la phase acheteur. C'est la phase où on se rend compte que le marchand de journaux était fermé, c'est pas très grave, on peut lire son quotidien préféré en ligne, éventuellement contre un abonnement. C'est la phase où on transpose plein d'achats et plein de démarches qu'on aurait fait de toute façon, genre déclarer ses impôts, en ligne. Et où on se dit que Internet est juste un moyen de gagner du temps, c'est un moyen de faire certaines courses plus vite. C'est en général assez synchrone avec le kikoulol, c'est-à-dire que c'est les débuts. C'est par ça qu'on commence. Après, il y a une évolution qui se fait. Alors, pour le coup, toutes les évolutions ont lieu en général jusqu'à atteindre au moins râleur ou commentateur. Après, c'est moins systématique. L'étape du lecteur, elle intervient assez facilement. C'est quand on prend l'habitude de tomber sur des écrits qu'on n'aurait pas lus dans la vraie vie. Le lecteur moyen d'avant Internet, il a ses 2 ou 3 journaux habituels. Pour les plus lettrés, ils ont leur quotidien qu'ils achètent quasiment tous les jours. Ils ont éventuellement 1 ou 2 hebdomadaires auxquels ils sont abonnés, ne serait-ce que pour avoir le programme télé. Normalement, il y a 2 clans, il y a Télé 7 jours d'un côté, il y a Télérama de l'autre. Et, bon, d'habitude, on coupe la salle en deux et ils se jettent des tomates. Donc le lecteur moyen a ses 3, 4, 5 titres habituels. Et il sort jamais de ses 3, 4 ou 5 titres habituels. Au mieux, il a quelques titres inhabituels qui sont le journal qu'il trouve au café, qui sont le journal auquel est abonné le voisin et qu'il voit de temps en temps. Mais il sort très rarement de ces titres-là. Sur Internet, ça fonctionne pas pareil. En général, il commence par transposer, c'est-à-dire qu'il va aller lire sur le réseau la même chose que ce qu'il avait l'habitude de lire en kiosque, puis après il va aller plus ou moins par étourderie tomber sur autre chose, lire d'autres choses, lire d'autres bouts ailleurs. Et donc il devient un lecteur plus averti, c'est-à-dire qu'il devient susceptible de se dire, tiens, ça, alors bon, moi j'ai bien lu l'article de mon quotidien de d'habitude, que disent les quotidiens d'en face ? J'ai pris un quotidien objectif, non partisan, genre l'UMA. J'ai lu l'article sur la privatisation de machin dans l'humanité, donc l'article objectif. Et je me demande ce que disent les propagandistes d'en face, dans Libé, Le Monde, Le Figaro, Minute, Pravda Hebdo, tous les autres journaux. Ça, c'est une attitude qu'on a à peu près jamais dans le monde du papier. Et c'est une attitude qui vient, avec l'usage et avec le temps, dans le monde du numérique, dans le monde du réseau. Parce que vous voyez circuler un lien vers un journal que vous ne sauriez pas aller lire spontanément et où donc vous allez jeter un œil, au moins survoler l'article, ce que vous n'auriez pas fait dans le monde du papier. Ça, c'est l'étape où on est lecteur. Après, on finit par le faire exprès. C'est-à-dire qu'on lit dans son journal habituel un article dont on se dit « Tiens, ce n'est peut-être pas tout à fait objectif. » Et donc on se dit « J'ai un doute. Qu'est-ce qu'ils disent en face ? S'ils disent exactement le contraire, c'est que les deux doivent être faux. » Et s'ils sont d'accord, il faut se méfier. Donc ça, c'est l'étape où on est lecteur. Ensuite, il vient un moment où, à force de lire des choses plus ou moins variées avec lesquelles on est plus ou moins d'accord sur le réseau, on devient râleur. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à quoi ça ressemble, râleur. Qui parmi vous a déjà lu les commentaires sous un article sur lefigaro.fr ? Donc vous voyez de quoi je parle. Râleur, c'est ça. C'est du commentaire sans queue ni tête, qui ne dit rien, qui n'est même pas forcément en rapport avec l'article, qui peut se résumer à pas content avec 6 points d'exclamation, et probablement le pas content écrit plus ou moins en majuscule. C'est à peu près le degré zéro du commentaire. C'est quand même très innovant. Parce qu'il y a 50 ans, le râleur, il faisait le même commentaire, simplement il le faisait accoudé aux zincs de son comptoir, avec son petit jaune ou son petit rouge, selon la culture. Maintenant, il le fait en ligne. C'est-à-dire qu'il le fait avec une probabilité non nulle qu'il ait une chance de lire une opinion qui ne soit pas la sienne. Ce qui va déjà le déménager un peu. Donc le râleur, c'est juste la personne qui, au lieu d'insulter son poste de télévision, moi je me souviens, quand j'étais petit, ma grand-mère parlait à la télévision. Et je suis formel, jamais PPDA lui a répondu. Hein. Mais elle parlait à sa télévision. Elle disait, ah oh, mais qu'est-ce qu'il est con à nous annoncer que des mauvaises nouvelles. Voilà, ça c'est du degré râleur. C'est-à-dire, elle disait ça quelles que soient les nouvelles qu'il annonce. Si ça se trouve, il annonçait une bonne nouvelle, du genre on a commencé une guerre et du coup la croissance va revenir, il y aura moins de chômage. Enfin, une bonne nouvelle, quoi. Oui, vous vous arrêtez au premier degré. Donc voilà, le râleur, c'est ça. C'est juste, mais l'air de rien, c'est une étape. C'est le moment où, au lieu d'insulter son écran de télévision de manière passive, on se met à sortir la même bêtise, mais par écrit. Ouais, bon, le fait que ça reste, c'est pas forcément les écrits les plus impérissables de l'humanité, je suis pas sûr qu'on en fasse une anthologie dans les siècles à venir, mais on commence à s'exprimer. Et en général, quand on commence à s'exprimer, c'est plutôt pour dire des bêtises. Je sais pas qui parmi vous se souvient des bêtises qu'il racontait à 2 ans et demi quand il commençait à parler avec plus de 4 mots d'affilée. Enfin, c'était pas de la haute philosophie, hein. C'était « je veux gâteau encore ». On va pas faire des poèmes avec ça. Mais... voilà, quand on commence à s'exprimer, c'est intéressant. Et donc le râleur, c'est cette étape-là. En général, il poste des commentaires de peu d'intérêt. Parfois, vous avez un râleur qui à force de poster, se met à, on ne sait pas trop pourquoi, lire les commentaires des autres. Donc là, il y a un côté escalade de la violence. Où il y en a un qui disait quand même pas content avec 5 points d'exclamation. L'autre qui lui répond, t'es rien qu'un débile, t'explique même pas pourquoi t'es pas content. Et en général, ça va pas s'améliorant. Comme en général, enfin, faut repérer le râleur, qui est une variété de commentateurs débutants, ne lit pas les commentaires des autres. Sinon, il se rendrait compte qu'il est le 97e à dire pas content et que comme les autres l'ont déjà dit, c'était pas la peine qu'ils le répètent. Mais parfois, on commence à en voir des qui se répondent l'un l'autre, en général plutôt pour se lancer des invectives, et ça monte très vite aux insultes. Mais vous inquiétez pas, c'est pas parti loin. Mais voilà, le râleur peut parfois se retrouver à discuter, et plus amusant, peut se retrouver en terrain hostile. Il y a un certain nombre d'endroits. Alors effectivement, pourquoi je cite toujours, je suis désolé, mais je cite toujours les commentaires du Figaro, parce que les commentaires du Figaro sont spécifiquement affligeants. Ceux du Monde sont pas plus au-dessus. Hein, il y a juste que 5 points d'exclamation au lieu de 6. Et dans pas content, ils mettent pas de M. Mais à part ça, c'est pas... c'est vraiment pas tellement au-dessus. Parfois ils font des phrases, quoi. Je ne suis pas content. Mais donc il arrive que le râleur se retrouve en milieu hostile, c'est-à-dire pas dans un des médias auxquels il pensait spontanément en tant que lecteur. Là, comme ça, si je vous demande spontanément quel site web allez-vous regarder pour vous informer, ça fait 3 jours que vous êtes occupé à poncer les poutres dans votre grenier. Hein, vous ressortez, vous revenez à la civilisation, vous retrouvez un endroit où il y a de l'électricité, des choses normales pour s'informer, vous voulez vous informer de ce qui s'est passé depuis 3 jours, quel site web allez-vous consulter? En fait, une grande partie d'entre vous va me répondre un titre de presse. Va me dire lefigaro.fr, lemonde.fr, marianne.bidule, lci.truc, itélé, BFM, que sais-je. Il y a une partie d'entre vous qui va me donner d'autres sources. Il va me dire, je vais regarder mon agrégateur RSS, je vais regarder NetVibes, je vais regarder mon fil Twitter, etc. Mais il y en a quand même une grande partie qui pense spontanément à du site de médias grand public. Et c'est pour ça que les commentaires idiots commencent à se cristalliser là-dessus. Parce que ce sont les premiers sites web qu'on consulte. Quand on débarque sur Internet et qu'on ne sait pas encore où chercher une info précise, on commence par là. Et puis, il vient un moment où le râleur, à force d'avoir pris cette habitude-là, va se retrouver sur des terrains hostiles, c'est-à-dire sur des sites web qui ne relèvent pas de la presse grand public, qui vont être spécialisés par un biais ou par un autre. Alors, ça va être n'importe quoi. Le classique, c'est de se retrouver dans les commentaires chez Maître Eolas, vu que c'est le blog le plus lu de France. Mais ça peut être n'importe quel autre. C'est en fait n'importe quel site un peu plus spécialisé que la presse grand public, parce qu'on s'intéressait à tel article. Du coup, on a été voir les liens que les copains proposaient sur le même sujet. Et puis, on s'est retrouvé sur un blog très spécialisé, assez finement, sur le morceau qui nous intéresse, à savoir la pêche à la mouche. Et puis, sous un article, on se met à mettre un commentaire, comme on fait d'habitude, sous lemonde.fr, à savoir, t'es trop débile, c'est pas vrai. Et où, en général, on se fait engueuler. Et c'est à ce moment-là que le râleur commence à apprendre. Il commence à apprendre petit à petit que tu postes pas un commentaire si c'est pour dire la même chose que ce qui a déjà été dit, vu que ça a déjà été dit. Au mieux, si ça a mal été dit, tu le redis bien. Mais t'expliques. Je reprends l'argumentaire de Pierre-Paul, commentaire numéro 38, mais formulé comme il faut en bon français, ça donne ça. Et donc ça, c'est en fait par cet affinage-là que le râleur a des chances d'apprendre. Qu'on poste pas un commentaire si on n'a pas d'abord lu les commentaires des autres, qu'on essaye de répondre poliment, qu'on essaye de rentrer dans un débat construit, que si on lance une idée et des questions, on est prié de revenir voir le lendemain si des fois quelqu'un aurait lancé des réponses, etc. etc. Ça, c'est la phase du commentateur. Je pense qu'à peu près n'importe qui sur Internet atteint à peu près cette étape-là, dans un délai qui va de 2 à 15 ans en fonction des personnes. Et j'en vois sourire, ça veut pas dire que les gens bêtes mettent 15 ans. C'est-à-dire que les gens qui partent de loin mettent 15 ans. C'est-à-dire que quand on a comme horizon culturel en tout et pour tout TF1 et M6, passer de TF1 et M6 qu'on insulte dans son canapé à une discussion relativement posée avec potentiellement des gens avec qui on n'est pas d'accord par écrit, ça peut demander un peu de temps d'adaptation. Alors que quand on part de Docteur S Lettres, normalement, on s'adapte vachement plus vite, en théorie. La pratique montre que non. Mais en théorie, on s'adapte plus vite. Ensuite, il y a une phase assez intéressante dans l'évolution de l'animal, où la transition se fait de commentateur à auteur. Donc ça, c'est une transition qui est assez en douceur. Parce que le commentateur se met à avoir des commentaires de plus en plus construits, expliquant pourquoi il n'est pas content. Expliquant que, bon, c'est pas qu'il n'est pas content, mais c'est que dans l'article, qui ne fait que 35 pages, il manque à peu près la moitié des informations sur le sujet, et il va s'empresser de les rappeler, de corriger les fautes qui sont dans l'article, de rectifier les erreurs qu'ont fait les commentateurs, en disant non, ça c'est... Effectivement, on croit souvent que, mais pas du tout, c'est une version simplifiée, la version longue, vous vérifierez à tel endroit, elle dit que... Donc le commentateur va se mettre à avoir des commentaires de plus en plus construits, va être obligé d'apprendre un certain nombre d'éléments qui ne viennent pas spontanément. Comme il a été dit tout à l'heure, c'est par écrit, donc ça reste. Donc quand on dit une bêtise et qu'on se fait corriger, ça reste. J'ai écrit le lundi matin que c'est bleu. Et puis quelqu'un est venu me démontrer, preuve à l'appui, que c'est vert. Donc, soit je vais passer pour un con en m'obstinant en disant que c'est bleu, soit à un moment il faudra bien que j'admette que, ah oui, tiens, je m'ai trompé. Alors la première fois on a beaucoup de mal, la deuxième aussi, et puis avec le temps on s'y fait. Et puis on apprend à ce que, ben, quand quelqu'un vous démontre que vous avez tort, ben, vous acceptez, puis vous reconnaissez que vous vous êtes trompé. Et ça c'est quelque chose qui est très inhabituel dans un débat entre gens. Être capable de reconnaître qu'on s'est trompé. Et c'est imposé par la forme écrite. À la forme orale ça marche pas. C'est-à-dire vous discutez au bistrot avec des copains, vous vous séparez en n'étant pas d'accord, vous vous retrouvez 8 jours après... Entre temps, vous avez digéré le fait que vous aviez tort, et vous allez lui réexpliquer ses arguments, en lui expliquant qu'il se trompait de défendre autre chose. Ça, à l'oral, ça marche. À l'écrit, vous ne pouvez pas. À l'écrit, vous ne pouvez que reconnaître que vous avez tort et avancer. Et donc, le commentateur, à force de faire des tartines à peu près aussi longues que l'article d'origine, on en vient tous là, hein, quand on suit un sujet qui nous intéresse et qu'on prend l'habitude de d'émettre des commentaires pour enrichir le débat ou pour poser des questions pour essayer de creuser, on finit toujours à un moment ou à un autre par poster des commentaires plus longs que l'article d'origine. Juste parce que dans le petit domaine auquel on s'intéresse, l'auteur de l'article il est plutôt sur le côté ouest, vous êtes plutôt spécialisé sur le côté est. Alors quand il parle du côté est, bah forcément vous lui sortez 800 lignes en commentaire pour préciser tout ce sur quoi il a fait des approximations. Et puis il vient un moment où vous en avez marre de publier une fois par semaine un commentaire plus long que l'article d'origine sous le texte de quelqu'un d'autre. Et où vous vous dites, bah plutôt que d'attendre que quelqu'un me fournisse un prétexte pour que je développe toutes mes réflexions sur tel ou tel sujet, bah je ne vais pas attendre le prétexte, je vais les développer moi-même. Et plutôt que de mettre un commentaire super long sous le blog de monsieur machin, bah quand il publiera un article auquel j'ai envie de répondre... Si la réponse c'est 3 lignes pour lui signaler une faute d'orthographe, je ferai un commentaire. Si la réponse c'est 600 lignes pour lui démontrer une erreur de raisonnement, je ferai un article chez moi, puis je lui dirai en commentaire, regarde, j'ai fait une réponse. Et là on a changé de logique. On n'est plus du tout dans la phase j'explique pourquoi je suis pas content, pourquoi je suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit. On est dans une phase beaucoup plus construite, où on s'exprime par écrit. Alors par écrit ça peut être par vidéo, ça marche pareil. Mais où on s'exprime de manière construite, en posant des éléments. Et puis, en général, il y a une phase d'évolution de l'auteur qui est le fait qu'il devienne animateur. C'est-à-dire que non seulement il écrit, mais en plus, il se débrouille pour récupérer les écrits des autres quand ils peuvent être construits et intéressants. L'air de rien, ça s'appelle un citoyen. Et c'est une variété de citoyens qui fait très peur. On a un ozone politique parce que c'est une variété de citoyens qui sait lire, qui sait écrire, qui sait débattre en public. C'est compliqué de débattre en public parce qu'il faut accepter qu'on puisse avoir tort. Qui sait reconnaître quand elle a tort, qui sait changer d'avis quand on lui amène les preuves du fait qu'il faut changer d'avis. C'est que c'est pas du tout le citoyen lambda à manipuler. C'est pas le modèle habituel. Donc voilà, un internaute c'est ça. Quand c'est bébé, ça regarde des chats qui se pètent la gueule en vidéo sur YouTube. Mais c'est pas parce que ça fait des choses ridicules que ça fera des choses ridicules toute sa vie. Bien. Du coup, si on essaye de regarder un petit peu les questions société versus internet et comment tout ça interagit... Alors il y a cette phrase que j'ai souvent citée, parce que je l'aime bien, qui est « L'imprimerie a permis au peuple de lire et Internet va lui permettre d'écrire. » Donc Internet est en train de modeler la société du 21e siècle comme l'imprimerie a modelé celle du 15e. Ça, c'est une image qui est probablement assez vraie. C'est-à-dire que la société est en train de changer pour des raisons similaires. Ah oui, effectivement. Effectivement. L'autre image qui est souvent prise, alors moi je prends souvent l'image de l'imprimerie, mais c'est parce que je suis passionné d'imprimerie. Il y a un autre conférencier qui intervient beaucoup sur ces sujets-là, qui est Serge Soudoplatov, et qui lui fait en général le parallèle entre Internet et l'écriture. L'image de l'imprimerie est très intéressante parce qu'elle montre exactement comment on change le tissu des relations humaines, elle montre exactement comment l'évolution technique était strictement imposée par les évolutions culturelles en cours, les évolutions culturelles n'ayant pu se faire que parce que l'évolution technique avait lieu. Il n'y a pas moyen de distinguer la poule et l'œuf là-dedans. L'imprimerie permet la Renaissance avait besoin de l'imprimerie, la Renaissance était en train de pousser aux portes, il fallait donc qu'il y ait un moyen de diffuser le savoir. Les moines copistes n'arrivaient plus à recopier les livres assez vite, il fallait qu'il y ait mieux, etc. etc. Et c'est très compliqué de dire lequel des deux est la poule ou l'œuf. Donc l'imprimerie permet de faire plein de parallèles qui sont super intéressants, qui ne sont que des parallèles, mais qui sont pas mal. Par contre, utiliser l'écriture comme parallèle est assez intéressant aussi, parce que ça permet de comprendre un certain nombre de mécanismes. En particulier, essayer de faire comprendre à quelqu'un qui vient d'une société d'avant l'écriture l'importance de la liberté de la presse. C'est pas simple. Essayez de faire comprendre à quelqu'un qui vient d'une société d'avant l'écriture l'importance que tout le monde sache lire et écrire. Ça ne va pas être simple. Et on est bien d'accord, il y a une différence énorme entre les sociétés d'avant l'écriture et les sociétés d'après l'écriture. Vous savez comment ça s'appelle une société d'avant l'écriture ? Ça s'appelle préhistorique. Donc essayez de convaincre un homme préhistorique de l'importance de la liberté d'expression que défendait Voltaire, c'est pas simple. Il y a comme un gap entre les deux. On est exactement dans ce genre de problème-là assez régulièrement quand on discute avec les hommes politiques, quand on parle d'Internet. Il y a une partie d'entre eux qui ont assez bien compris ce que c'est, qui ont assez bien compris ce qui se passe, qui ont décidé de dire des bêtises, qu'ils font exprès, et qui savent très bien qu'ils disent des bêtises. L'exemple type, c'est Frédéric Lefebvre. Retrouver toutes les citations de Frédéric Lefebvre parlant d'Internet, c'est connerie sur connerie, il le sait, il le fait exprès. Par contre, on a une grande majorité de nos hommes politiques qui sont pré-réseaux, qui sont pré-historiques. Il faut comprendre, le meilleur exemple pour comprendre ça, c'est de comprendre les sous-jacents de la loi Hadopi. L'idée, c'était que les gamins qui font des bêtises en copiant de la musique, on allait les priver d'Internet comme on les aurait privés de dessert ou privés de télé. C'est donc apporter à Internet à peu près le même rôle structurel fort que n'importe quel hochet pour gamins. C'est exactement comme, je pense, que dans les tribus préhistoriques, le chef de tribu avec le gros gourdin devait prendre le mec qui savait écrire pour un con. Et devait considérer que c'était un jouet. Donc c'est exactement de la même nature. Et on a affaire ici, l'apparition de l'écriture s'est faite en général dans différentes zones sur Terre, mais surtout elle s'est faite sur très longtemps. L'apparition du réseau et le changement de société que ça impose se fait en très 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 peu de temps. Et donc le conflit met face à face toute une génération humaine qui ne sait pas écrire au sens numérique du terme, face à une génération qui est née dedans et qui comprend même pas que ça puisse leur échapper. Ne croyez pas qu'il y ait un seul des candidats à la présidentielle qui tienne son compte Twitter tout seul ou qui tienne sa page Facebook tout seul. C'est pas vrai, ils savent pas faire. Il y a quelques politiques qui savent faire, et ceux-là, ils ne sont pas candidats à la présidentielle. Bien. Et donc ça, c'est ce qui explique le titre que j'ai pas voulu garder sur faire discuter Cro-Magnon et Voltaire. C'est une des grandes difficultés que nous avons pour parler avec les politiques. Ils viennent d'un monde pré-réseau pour beaucoup d'entre eux et ils refusent d'entendre que le réseau est un outil important. C'est pour ça qu'ils sont tombés des nues quand c'est le Conseil constitutionnel qui le leur a dit. Quand la première version d'Hadopi a été censurée et que le Conseil constitutionnel a dit « priver quelqu'un d'accès à Internet, c'est le priver d'une liberté fondamentale qui est l'accès à l'information et qui est sa liberté d'expression. Et donc il faut un juge. » Et vous avez plein de députés qui ont expliqué à la presse, dans les couloirs de l'hémicycle, que bientôt vous verrez, il faudra un juge pour priver les enfants de télé. Ils n'ont pas compris ce qu'on leur disait. Bien, on va se servir des outils que je viens de poser pour essayer de lire quelques questions d'actualité. Donc, Hadopi. Alors c'est une question qui n'est pas récente. C'est en fait la question qui est posée par la pétition des marchands de chandelles. Je ne sais pas qui connaît la pétition des marchands de chandelles de Bastia. Alors c'est un texte écrit par un économiste, on dirait ultra-libéral de nos jours, du 19e siècle, Frédéric Bastiat, qui est un texte ironique, qui est une pétition adressée par les marchands de chandelles, suifs, huiles d'éclairage, lampes à pétrole et autres bougies, adressée aux députés de l'Assemblée nationale pour se plaindre de la concurrence déloyale qu'exerce le soleil. Et qui explique que si on interdisait aux gens d'ouvrir les fenêtres, les persiennes, les œils de bœuf et autres parties ajourées de leur maison pendant la journée, alors ça augmenterait les ventes de suifs, de chandelles, etc., etc. Il s'en suivrait donc une croissance économique qui se traduirait par une baisse du chômage, par des rentrées d'impôts, et bref, toute la nation s'en porterait beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est la pétition des marchands de chandelles qui se plaignent donc de la concurrence du soleil gratuit qui fait rien qu'à pirater tous leurs revenus qu'ils auraient dû faire en vendant des chandelles. J'ai envie de faire court sur Hadopi, donc je ne vais pas revenir sur ce que c'est que le droit d'auteur, mais en deux mots, historiquement, le droit d'auteur, c'était un truc qui était prévu pour protéger les auteurs contre les marchands et qui disait que quand je vends un livre, je dois quelque chose à l'auteur des propos qui sont dedans et pas seulement à son imprimeur. Donc, ce qui fait la valeur du commerce, en fait, c'est le prix du livre. Et le livre, son prix est à 99% piloté par le prix du papier. Il n'y a rien de plus important que le papier dans le monde de l'imprimerie. Ce qui coûte cher dans un livre, c'est le papier. Le reste, c'est pour rire. L'encre, c'est gratuit. Le travail d'impression ne coûte pas très très cher. Ce qui fait le prix du livre depuis 5 siècles, c'est le prix du papier. Et depuis que le livre est numérique, figurez-vous, le papier n'a pas de prix. La bonne valeur de fabrication d'un exemplaire de plus d'un livre en PDF, c'est 0 euros. Ça a coûté 0 euros de produire une copie de plus. Et donc si on rémunère l'auteur en disant qu'il touche 7% du prix, il ne va pas manger. Voilà, le problème de fond c'est celui-là, on peut tourner autour tant qu'on veut. Si on reste sur des règles d'économie habituelles qui sont les règles de l'économie de la rareté, bon, je ne sais pas si économie de la rareté ça parle à tout le monde. C'est super simple. L'économie de la rareté, c'est si je vous vends ma chemise, j'ai plus de chemise. Par contre, si je vous donne une idée, je l'ai encore. Quand je vous raconte cette blague, que vous ne connaissez pas encore, mais c'est celle de l'histoire du fou qui repeint son plafond. Je sais, c'est la même à chaque conférence. Donc il y en a qui la connaissent déjà. Mais vous verrez, vous l'aurez en double et en fait, ça ne vous encombrera pas. Quand je vous raconte donc cette blague fine du fou qui repeint son plafond quand un collègue passe en lui disant de bien se tenir au pinceau pendant qu'il ôte l'échelle, avant la conférence, vous ne la saviez pas. Bon, maintenant, vous la savez. Mais je la sais toujours. En fait, je voulais pas donner. Je voulais copier. Et tout le jeu, c'est ça. Une économie d'abondance, c'est typiquement l'économie du savoir, c'est typiquement l'économie de la connaissance, c'est typiquement ce que font les profs. Le prof de maths qui vous explique Thalès et Pythagore, il les a pas oubliés à la fin du cours, normalement. Et avec un peu de chance, plusieurs parmi les étudiants l'ont retenu. Ça, c'est encore moins sûr, mais... Parfois, au pire, disons qu'au pire, personne n'a rien perdu. Oui, mais c'est pas grave, le temps, c'est pas important. Donc, le premier morceau qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé d'une économie de la rareté, qui était celle du papier, parce que si je vous donne mon livre en papier, je ne l'ai plus, à une économie de l'abondance, qui ne se réfléchit pas de la même façon. Une économie de la rareté, c'est une économie dans laquelle la loi de l'offre et de la demande s'applique. Une économie d'abondance, c'est une économie dans laquelle la loi de l'offre et de la demande n'a pas de sens. Puisque l'offre est illimitée. Ah oui, le nombre d'exemplaires en PDF d'un livre donné est potentiellement infini. On peut en faire des centaines de milliards d'exemplaires si on veut. Ça coûte rien. Ce qui n'était pas le cas en papier. On ne pouvait pas faire des centaines de milliards d'exemplaires de l'encyclopédia Universalis. Il fallait commencer par raser toutes les forêts du monde pour pouvoir produire autant de papier. Alors que là, on peut fabriquer des centaines de milliards d'exemplaires de l'encyclopédia Universalis. On ne va même pas raser les forêts de DVD. C'est dire, il ne va rien se passer. Donc ça ne peut pas du tout se raisonner de la même façon. Dans une économie de l'abondance, si on applique la loi de l'offre et de la demande, l'offre est infinie, la demande est nécessairement finie. Hein, vous ne pouvez pas écouter plus de 18 heures de musique par jour. Même en faisant des efforts, il faut au moins 6 heures pour que vous dormiez. Donc même en supposant que vous écoutiez de la musique sous la douche, au travail, pendant que vous êtes en train de regarder la télé, vous écoutez de la musique quand même en même temps, vous ne pouvez pas en écouter plus de 18 heures par jour. Donc la demande est finie alors que l'offre est infinie. Nécessairement, le prix de vente est zéro. Ce qui est idiot. C'est-à-dire que la musique a quand même une valeur, même si elle n'a pas de prix. Donc on n'est pas du tout... Faut pas vouloir appliquer les lois de l'économie de la rareté, ça donne toujours des résultats idiots. Donc on est sur un mécanisme d'économie d'abondance où ce qui fait la valeur, c'est la valeur d'usage. C'est-à-dire que vous êtes prêt à payer cher si ça vous procure une émotion forte. C'est pour ça que le porno se vend si bien, par exemple. Mais je déconne pas, le sexe, c'est quand même un truc qu'on peut tous faire tout seul depuis tout petit. Qu'est-ce qu'on irait payer pour ça puisqu'on peut le faire tout seul? Et pourtant on paye. Que ce soit du porno, que ce soit le plus vieux métier du monde, que ce soit entretenir une maîtresse, ça revient au même, hein, c'est le même business déguisé différemment. Bah si. Ou entretenir un gigolo, hein, je suis pas sexiste. Tout ça c'est le même business, juste reconstruit différemment. Donc voilà, c'est pas parce que le produit est abondant qu'il a pas de valeur. Et c'est pas parce qu'on est dans une économie de l'abondance qu'il n'y a pas de valeur associée au produit. Simplement, il ne faut pas le réfléchir de la même façon. Et en particulier, l'outil du droit d'auteur qui disait il existe une économie de la rareté, il existe une économie du support physique et on récupère un pourcentage de cette économie du support physique pour rémunérer les artistes, ça ne peut pas marcher dans la partie qui est basée sur l'économie d'abondance où il n'y a plus d'économie de la rareté et où il n'y a plus de support physique. Donc voilà, les bonnes réponses sont à chercher de ce côté-là. La réponse à Dopi, on a déjà vu tout à l'heure que priver les enfants de télé, c'était pas une grande idée. En tout cas, que c'était plus compliqué que ça. Il y a d'autres éléments d'actualité que je voudrais vous amener à réfléchir un petit peu. Je sais plus si j'ai un... Si, j'ai, je crois que j'ai une diapo après qui en reparle. C'est les questions de filtrage du réseau. Vous savez que certains gouvernements ont des velléités d'empêcher leurs concitoyens de voir tout ou partie du réseau. Alors j'en ai cité un certain nombre là. Tous des états démocratiques. Alors la Tunisie, vous pouvez le lire soit comme avant Ben Ali, soit comme après Ben Ali. Ça a un petit peu changé entre les deux, mais pas énormément. La France, la Chine et les États-Unis, voilà, ça ce sont quatre des États qui ont classiquement cherché à filtrer sur le réseau. En général, avec des prétextes relativement nobles, hein, c'est-à-dire que si vous demandez à la France pourquoi elle essaye de filtrer sur le réseau, vous allez apprendre que c'est pour protéger les bonnes mœurs, pour empêcher les violeurs de petits-enfants, pour empêcher les néo-nazis terroristes, pour empêcher tout un tas de trucs super graves. Mais la Chine aussi, hein, c'est pour empêcher les trucs super graves, c'est pour empêcher les contre-révolutionnaires, c'est pour empêcher les gens qui veulent opprimer le peuple, et qui donc font preuve de sédition pour que le gouvernement du peuple tombe. Et donc ce sont de dangereux contre-révolutionnaires, c'est des antisociaux qu'il faut empêcher de s'exprimer. Donc le gouvernement chinois vous expliquera qu'il a parfaitement raison de filtrer ses propres odieux terroristes. Les États-Unis aussi ont des velléités de filtrage, en général moins bien assumées pour le coup. Et de manière générale, ça devient une constante. C'est-à-dire pour le coup, avant je détaillais beaucoup cette partie-là, maintenant c'est plus la peine, la majorité des gens le voient. Le filtrage d'État est un marqueur de l'état d'une démocratie. Si vous voulez vous faire une petite idée du fait que la démocratie en France est abîmée, mais est encore en meilleur état qu'en Chine, il suffit de regarder la qualité du filtrage qui se fait sur le réseau. La France filtre relativement peu, avec quelques prétextes plutôt bien choisis, en général avec quelques formes démocratiques, et quand on s'éloigne trop des formes démocratiques, même les politiques protestent. C'est-à-dire qu'en ce moment, on parle de filtrer sans décision de juge un certain nombre de sites. Même les politiques, même dans la majorité actuelle, certains d'entre eux trouvent que non, ça va pas. C'est pas raisonnable. Donc ça, c'est un très bon marqueur de l'état de la démocratie. Et c'est pour moi... si je vous avais dit, il y a 15 ans, qu'on mesurait la qualité d'une démocratie à la façon dont elle traitait l'accès Internet de ses citoyens, vous auriez rigolé. Et pourtant, aujourd'hui, pour détecter les atteintes les plus graves à la démocratie, on regarde, est-ce que c'est un État qui met ses journalistes en prison ? Oui, non. Est-ce que c'est un État qui filtre les accès Internet ? Oui, non. Ce sont les deux critères clés qui permettent de comprendre si un État est suffisamment démocratique pour permettre la liberté d'expression. Et donc en France, pour info, on ne met pas les journalistes en prison, mais par contre on filtre Internet. Donc ça vous donne une petite idée de l'endroit où on est. J'avais pas le petit bout sur les États-Unis. Alors il y a un morceau que j'aime bien citer, je pensais l'avoir. Je pensais avoir un transparent exprès sur Wikileaks. J'aime bien expliquer la position des États-Unis parce que c'est une des plus embrouillées si on essaye de comprendre, mais une des plus limpides si on résume bien. Il faut bien choisir le résumé. Nous sommes, de mémoire, début 2010. Google se bastonne avec le gouvernement chinois pour savoir si oui ou non Google va filtrer ses résultats pour n'afficher aucune page qui contienne les mots Tiananmen, révolution, liberté, démocratie, plus le nom du prix Nobel chinois, plus etc. etc. Que des gros mots, oui, mais tout du truc révisionniste à deux doigts du nazisme. Voilà, c'est tout à fait. La Chine se protège contre ces odieux malpensants. Google maintient qu'il ne veut pas faire ça. Il veut bien supprimer certaines pages des résultats si on lui amène une décision de justice. Il ne veut pas filtrer. Il veut qu'on lui amène une décision de justice par page qu'il doit retirer. Le gouvernement chinois n'est pas tout à fait d'accord, ça bastonne un peu. Hillary Clinton, secrétaire d'État, secrétariat d'État aux États-Unis, vous voyez ce que c'est ? C'est ministre des Affaires étrangères. Eux, ils appellent ça secrétaire d'État. Donc Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, explique à la presse. La Chine veut filtrer Internet, c'est intolérable, il faut protéger la liberté d'expression des citoyens, on ne peut pas filtrer comme ça sans l'avis d'un juge, il faut absolument que la justice se fasse de manière normale, on peut pas, enfin voilà, Internet, liberté d'expression, c'est bien, il faut défendre Internet, c'est bon, mangez-en. Alors on sort un petit calepin, puis on note, les États-Unis sont contre le filtrage d'Internet pour des motifs politiques sans décision de justice. Ça a l'air bien. Range le petit carnet. Novembre 2010. Alors c'est important parce que c'est la même année, parce que c'est les mêmes États-Unis, parce que c'est la même Hillary Clinton, qui est toujours secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, mais cette fois-ci c'est Wikileaks. C'est plus la Chine. C'est plus la Chine contre Google, c'est Wikileaks qui, en novembre 2010, commence à diffuser des câbles diplomatiques américains. Et la même Hillary Clinton explique à la presse que Wikileaks, il faut absolument les empêcher, que d'ailleurs le gouvernement américain fait pression sur les groupes américains. Ça tombe bien, on lisait pas. Si vous avez emprunté des livres, faut leur dire. Donc la même Hillary Clinton, toujours secrétaire d'État, déclare c'est scandaleux, c'est du terrorisme, rendez-vous compte. Comment ça, on peut publier ce qu'on veut sur Internet ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ce sont des documents gouvernementaux, vous n'avez pas l'accord, vous n'imaginez pas. comme si la presse avait le droit de publier des choses non approuvées par les politiques. Si c'est ça, où va la Pravda, enfin, truc. Wow. Et puis en même temps, le gouvernement américain fait pression sur quelques PME de banlieue comme Amazon, Visa, Mastercard, PayPal, pour essayer de faire tuer Wikileaks. Qui du coup vient se réfugier sur quelques serveurs en France, dans une PME du côté de Roubaix, qui s'appelle OVH, et où du coup le gouvernement français se demande comment on pourrait faire empêcher l'hébergement de Wikileaks, mais sans passer par un juge, parce que si on passe par un juge, c'est compliqué. Puis au final, ça s'est pas fait. Mais du coup, bah, vous ressortez votre petit carnet, puis vous rayez. Vous mettez « Les États-Unis souhaitent qu'il y ait filtrage sans passer par un juge, uniquement via des boîtes privées, quand c'est pour des raisons politiques qui les mettent en danger. » Bon. Nickel. Janvier 2011. Alors c'est intéressant, c'est pas très longtemps après novembre 2010, même si c'est pas la même année, je vous le concède. Janvier 2011. Alors c'est les mêmes États-Unis, puis c'est la même Hillary Clinton, qui est toujours ministre des Affaires étrangères, mais qui plutôt que de s'embêter avec les fuites de ses ambassades, va s'embêter avec ce qui se passe à l'étranger. Et ce qui se passe à l'étranger, c'est le fait que le gouvernement d'Hosni Moubarak a décidé d'éteindre Internet en Égypte. Que nous dit Hillary Clinton ? Que c'est scandaleux ! Qu'on peut pas couper l'accès Internet des gens, c'est la liberté d'expression quand même, qu'ils ont bien le droit de pas être d'accord avec le régime en place, et qu'ils ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent, même si ça plaît pas aux dirigeants. Surtout s'ils sont pas aux États-Unis, visiblement. Donc si un jour vous trouvez une logique dans le comportement des États-Unis sur le sujet, je veux bien que vous m'expliquiez. Mais ils sont très embêtés. Autant le gouvernement français est relativement constant. C'est-à-dire le gouvernement français, quand Wikileaks vient s'installer en France, il cherche comment filtrer. Ils cherchent comment filtrer Internet sans passer par les juges. Enfin, de toute façon, c'est lui qui vendait les outils de filtrage en Libye, c'est lui qui vendait les outils de filtrage en Tunisie. Je pense que quand on aura fini d'éplucher en Syrie, on trouvera qu'il n'y a pas que des Ricains, il y a aussi des Français. Nous, on est constant. On fabrique les outils pour filtrer les autres, on les installe chez nous. Enfin, voilà, on est relativement cohérent. La liberté d'expression en France, c'est un produit d'exportation. C'est un truc qu'on a inventé, on l'a vendu aux Ricains, ils en sont très contents, mais nous, on s'en sert pas. Donc, voilà. La France, pour ça, est relativement cohérente. C'est la France est un État policier dans lequel on tolère un certain nombre de droits. Alors, d'habitude, les États-Unis, c'est un État de droit dans lequel on tolère certains policiers. Mais on est en train d'inverser. Bien. Donc, du coup, très rapidement, on va se faire la neutralité du réseau. Et vous allez voir que ça se comprend très bien en négatif. Donc, d'abord, toutes les questions que je viens d'évoquer parlent de neutralité du réseau. Quand je parle du fait que le réseau filtre pour des raisons politiques ou pas, on parle bien de neutralité du réseau. Il n'y a évidemment pas que la politique. Vous savez bien que l'organe politique le plus puissant actuellement, il n'est pas à l'Élysée, il est à la Bourse. Ça, on vous a expliqué. C'est un des débats clés pour les structures démocratiques, et en tout cas, c'est le premier grand au XXIe siècle. Il y en a deux grands. Visiblement, il y a les questions de finance et il y a les questions de liberté d'expression sur le réseau. Vous verrez apparaître comme interlocuteurs trois grandes catégories d'acteurs. Les marchands, en fait les marchands de tuyaux, ou les marchands de contenu sur les tuyaux, plus exactement. Tous les marchands de services, que ce soit les sites de porno, les sites de rencontres, les sites qui vendent des livres, les sites qui vendent de la musique, les sites qui vendent de la recette de cuisine, n'importe qui fait du business sur le réseau. Parce que vous avez en face les intermédiaires, que sont les fournisseurs d'accès Internet, qui sont en coupure entre vous et les services que vous achetez. Vous pensez que vous avez acheté un accès Internet, c'est pas vrai. Vous avez vendu votre temps de cerveau disponible en échange du fait que vous payez de l'argent. C'est assez nul comme vente. Vous avez vendu un prix négatif votre temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que vous payez pour mettre votre temps de cerveau disponible à disposition, puisque Monsieur Orange peut décider de vous empêcher de voir le site web que vous aviez l'intention de voir. C'est-à-dire que vous vouliez regarder... un chat qui se casse la gueule et où c'est trop drôle sur YouTube. Lui, il a décidé que vous iriez regarder un chat qui se casse la gueule et c'est trop drôle avec de la pub sur TF1 vidéo. Et bien, curieusement, YouTube, sur son réseau, va être lent. C'est un intermédiaire. Il est entre vous et le marchand. Et donc, il peut. Alors, vous racketter, c'est très compliqué parce que vous payez déjà... Bon. Par contre, racketter le marchand, c'est super simple. C'est-à-dire dire au marchand chez qui vous allez faire vos courses, bah, tu me donnes 5% de ton chiffre d'affaires, sinon mes abonnés n'arriveront plus à accéder à ton site. C'est du racket, hein. C'est encore s'ils appellent ça l'impôt révolutionnaire. C'est le même principe. C'est les intermédiaires techniques qui veulent racketter les marchands. Et puis il y a une troisième catégorie. Donc ça, c'est les deux catégories qui se foutent sur la gueule à propos de neutralité. Et la troisième catégorie, ce sont les tribuns. C'est-à-dire les gens qui avaient accès à la parole publique avant Internet. Donc ça va être les hommes politiques, ça va être les syndicalistes, ça va être les journalistes. Bref, tout ce qui était à un titre ou à un autre représentant du peuple, qui se trouve fort mari du fait que le peuple n'ait plus besoin de représentants puisqu'il peut s'exprimer tout seul. Donc ceux-là n'aiment pas non plus. Donc ce sont les trois grandes catégories qu'on va trouver dans ce débat. Les atteintes faites par les intermédiaires techniques et les marchands, parce que des fois ils arrivent à se mettre d'accord quand même, hein, sur le fait que, en général c'est plutôt sur votre dos, mais il leur arrive de se mettre d'accord. Il y a quatre grands modèles. Il y a la priorisation. Alors c'est le fait de dire que les trafics de données vers DailyTube, ça va être plus prioritaire que vers YouMotion. Et que bah du coup il y en a un des deux qui marche mieux, donc qui rapporte plus de publicité. En général, ça c'est en se mettant d'accord. Alors en général, vous constaterez que si Orange en favorise un, moi je vous prédis c'est Dailymotion. Parce qu'ils sont actionnaires de Dailymotion. Et s'ils favorisent un truc de musique, moi je vous fais une prédiction, ça va être Deezer. Parce qu'ils sont actionnaires de Deezer. Ils vont pas favoriser ceux où ils sont pas actionnaires, c'est pas con non plus. Non, c'est, à la base c'est quand même surtout pour du pognon, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la priorisation. Ensuite, il y aurait le filtrage. Ça, c'est assez gras. Pour le moment, ça se pratique peu. Ça se pratique dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est... souvent, ce sont les sites de service qui disent « Moi, je veux pas parler avec telle catégorie de clients. Vous venez d'un opérateur qui est sale. Je veux pas vous parler. » En général, c'est un peu plus finaux que ça. C'est-à-dire que... bah, eux, ils mettent à disposition tel film... à la location que vous pouvez regarder en streaming sur le site, mais seulement si vous venez de tel pays, parce que si vous venez de tel autre pays, vous payez avec de l'argent qui est moins bien, donc non. Voilà, donc en général pour le moment le filtrage se passe plutôt de ce côté là si vous voulez des exemples de filtrage en vrai sur du réseau, dans le téléphone mobile vous ne pouvez pas utiliser de téléphonie sur IP. Là, vous pensez avoir un accès internet illimité sur votre merdier mobile. Utilisez-le comme modem pour un ordinateur, vous verrez que vous ne pouvez pas utiliser Skype. Il semblerait que ce soit en train de se débloquer, parce qu'à force qu'on le raconte partout que c'est illégal, le régulateur a commencé à montrer qu'il avait peut-être une demi-quenotte, et donc les opérateurs sont en train de se calmer. Il semblerait que de nos jours, quand vous appelez l'opérateur pour insulter le mec à l'autre bout, au support, en lui disant que vous voulez absolument pouvoir utiliser Skype, ils finissent par le débloquer, gratuitement. C'est dire s'il était bloqué. Oui. Oui, cette méthode-là marche avec quasiment tous les opérateurs maintenant. Ah, sans appeler. Oh. Je veux pas faire de pub. Donc je répéterai pas leur nom. La troisième forme, c'est l'altération. C'est le fait de modifier le contenu. Vous croyez que ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que vous étiez en train de lire la page sur, je sais pas, moi, n'importe quel régime démocratique décrit dans Wikipédia. Donc l'historique du Troisième Reich, et vous vous rendez compte que c'est écrit tout en allemand gothique avec plein de textes qui, visiblement, c'est pas un cours d'histoire, c'est un panégyrique. Vous vous dites, tiens, ça doit pas être le vrai. Alors non, ça sert pas à ça, les altérations de contenu, ça sert pas à réécrire l'histoire à la volée. Je vous rappelle, ça c'est les atteintes commerciales. En général, les marchands, ils s'en foutent de réécrire l'histoire à la volée. Par contre, ils réécrivent la pub. C'est-à-dire que vous alliez voir le site web de tel journal qui vit à 90% des publicités qui s'affichent sur son site. Et puis votre opérateur décide d'attraper les pubs au passage, de les enlever. Ça, on se dit, c'est sympa. Ça fait quand même un site web qui est vachement plus classe. Et puis il met les siennes à la place. Ça porte un nom, ça c'est du vol. Vous imaginez le marchand de journaux qui prend les journaux puis qui enlève les pubs pour mettre les siennes à lui à la place et il vous vend le journal après. C'est juste du vol. Et ben ça se pratique. Ça se pratique. Ça s'est pratiqué beaucoup à l'époque du bas débit, où il y a des gens qui, il y a des opérateurs qui rajoutaient de la publicité dans les pages web en échange du fait que vous payez moins cher votre connexion. Et il y a des gens qui envisagent très sérieusement de pratiquer ça, c'est-à-dire de supprimer les pubs Google à la volée pour mettre leurs pubs à eux, ou de supprimer les pubs de telle ou telle agence, de telle ou telle régie publicitaire pour mettre les leurs à la place. Bien entendu, sans que vous le sachiez. Et puis, y a les atteintes sur les histoires de volume qui consistent à, jouer à dire, ça c'est classique dans le mobile, vous avez le droit à 500 mégaoctets. Bon. Alors c'est illimité, oui, c'est illimité dans le temps. C'est-à-dire que tu peux les utiliser de 0h à 23h59, donc c'est illimité. Mais que 500 mégaoctets. C'est illimité dans la limite de. C'est un truc, ça demande juste un tout petit peu de gymnastique. Oui. Et donc le petit jeu sur les volumes, si vous regardez bien les petites lignes, vous êtes limité à tel volume, sauf si c'est vers les applications à eux. C'est-à-dire vous êtes limité à 500 mégaoctets, mais si vous regardez de la vidéo de la même marque que l'opérateur, alors c'est pas limité. Si vous regardez la télévision qui est inclue dans l'offre mobile, alors la limite de 500 mégaoctets s'applique pas, alors que pourtant c'est toujours bien de l'internet, hein, cette diffusion télé. C'est des octets qui circulent sur le réseau. Donc ça, en règle générale, ça donne une grille de lecture super simple, qui est que si une atteinte fait l'objet d'une offre commerciale, si une atteinte à la neutralité du réseau fait l'objet d'une offre commerciale, elle est probablement illégitime. Parce qu'il y a des atteintes à la neutralité du réseau qui sont pleinement légitimes. L'exemple type, c'est la façon dont on traite les pannes. Si vous faites le parallèle avec le réseau routier, une grue s'abat sur le périph, donc le périph est coupé, donc le réseau routier doit circuler par ailleurs. Forcément, ça crée des bouchons partout. Et donc forcément, l'opérateur du réseau va chercher comment résorber les bouchons. Et il va le faire de manière, en général, relativement crade. Donc il va prendre tout ce qui dépasse, il fait zou, tout ça à la benne. Et on fait le tri de manière assez bestiale, de manière à ce qu'un minimum de garantie, enfin, qu'il y ait un minimum de qualité de service qui survive malgré la panne. Mais en général, ce traitement-là, il est caractérisé par le fait que vous ne payez pas. C'est-à-dire que vous ne payez pas pour que le réseau soit en panne. Enfin, il se trouve qu'il est en panne. Vous seriez même presque en droit de vous faire rembourser, vu que ça ne marche pas bien. Et où l'opérateur fait tout son possible pour que ça marche le moins mal possible, pour pas être obligé de répondre aux clients mécontents au téléphone. Ça, c'est le traitement de panne. Mais à partir du moment où une atteinte à la neutralité devient l'objet d'une offre commerciale, que ce soit vis-à-vis des clients utilisateurs finaux ou que ce soit vis-à-vis d'autres opérateurs, elle est illégitime. Après, il y a les atteintes politiques. Alors, il y a celles dont on a déjà parlé, qui en général relève juste de la dissidence politique. Ça revient peu ou prou à faire taire les opposants et à faire taire les mécontents. Donc en Tunisie, c'était à peu près n'importe quel démocrate. Aux États-Unis, on sent bien, c'est Wikileaks. On sent bien que toute l'opposition politique aux États-Unis a l'air de se résumer à Wikileaks. Mais il y a une autre tentation chez nos politiques, et donc je ne parle pas des tentations antidémocrates. Facilement antidémocratique. C'est-à-dire quand un politique cherche à faire taire ses opposants sur le net, on voit bien tout de suite le lien avec l'antidémocratique. Mais il y a une autre tentation qui est en fait un vieux fantasme, qui est l'idée que si on surveille suffisamment tout le monde, si on met suffisamment de policiers à suffisamment de coins de rue, il n'y aura plus de délinquance. S'il y a bien un policier par chambre à coucher pour surveiller ce que tout le monde fait, alors il n'y aura plus de femmes qui mourront sous les coups de leur mari. Si on surveille suffisamment la société, alors il n'y aura plus de délinquance. C'est ça le fantasme. C'est le fantasme de Robocop ou de Judge Dredd. Qui sont en général plutôt des marqueurs de défaut sur l'identité masculine. Des spectateurs ou des réalisateurs, j'ai jamais compris. Enfin, ça correspond à des fantasmes très curieux. C'est évidemment faux. C'est-à-dire que plus vous multipliez le nombre de policiers, plus vous multipliez le nombre d'abus de pouvoir de la police, donc vous multipliez la quantité de corruption, qui est une forme de délinquance quand vaut bien une autre. Donc vous multipliez tous les abus de pouvoir qui vont avec, donc la délinquance qui va avec. Donc peut-être que vous supprimerez une partie de la délinquance conjugale, mais enfin vous allez augmenter le nombre de viols liés à la présence du policier dans la chambre à coucher. Ou le nombre de viols de policiers, pour peu que... Enfin ça dépend après, c'est comment... Ben, ça dépend, ça se trouve, le policier, il est gringalet, les deux autres, ils ont envie de l'attacher. Puis lui, il est venu avec des menottes, il est con. Mais donc, vous créez au moins autant de problèmes que vous n'en résolvez. Et donc, cette tentation est très grande. C'est l'idée que si on mettait suffisamment de caméras de vidéosurveillance, il n'y aurait plus de viol. Parce que c'est bien connu que les violeurs se mettent toujours devant les caméras. Et qu'ils ne sont pas assez malins pour trouver comment se mettre à l'abri de la caméra. Genre en forêt. Donc voilà, ça c'est une idée récurrente chez nos politiques, l'idée que en mettant suffisamment d'ordinateurs et en mettant suffisamment de fichage et en mettant suffisamment de flicage, on peut tout mettre en coupe réglée et faire en sorte que, en gros, les êtres humains se comportent comme des machines et plus comme des êtres humains, et donc il n'y ait plus de criminalité. Ça marche simplement pas. C'est juste un fantasme. C'est-à-dire que c'est sûrement vrai dans les histoires pour enfants, c'est probablement vrai dans Robocop, ça n'est pas dans la vraie vie. Donc ça, c'est des idées assez fausses. Et c'est une des grandes tentations de nos politiques. Je délire pas quand je dis ça, nos politiques ont voté, là, ces dernières semaines, pour la première fois en France, un fichier des honnêtes gens. Il n'y en avait pas en France. On fichait. Y avait les fichiers du grand banditisme. C'est-à-dire qu'on prenait les empreintes des détenus, et puis quand on arrête les gens pour une raison X ou Y, on les fiche. Donc on a des fichiers de criminels, des fichiers de délinquants, des fichiers de tout un tas de trucs, mais on n'avait pas un fichier de police de tout le monde. De juste les gens normaux, tous, voilà, fichés à la police, comme ça on sait qui c'est. Ça c'est voté. Non, mais pour vous éclaircir un peu la mémoire, Vichy l'avait pas fait. D'accord ? Eux, ils avaient fiché que les juifs. Mais c'était une grande gloire nationale parce que ça prouve que notre administration est efficace. On avait fait ça très bien. Alors après, on a les atteintes des marchands de chandelles. Je vais pas m'étendre sur le fait que les moines copistes de DVD ont commencé la guerre contre Internet. Dans la série des gens qui vendaient des choses et dont le business est remis en cause par le réseau, ils sont les premiers à avoir crié, ils sont pas les derniers, ils sont que les premiers. Il y aura derrière les journalistes, il y aura derrière les syndicalistes, il y aura derrière tous les gens dont le business est remis en cause par le réseau. Voilà, et puis le bout de conclusion auquel je voulais vous amener. Alors je sais que tout n'a pas transparu de manière évidente dans mon propos, mais Internet est le résultat inévitable, pas tellement la cause, d'une évolution en cours qui fait pression sur les sociétés humaines pour qu'elles changent. Si je vous disais qu'Internet, qu'il existait la société de la télévision, que Internet est né tout seul dans son coin à côté et que par sa croissance il a poussé la société de la télévision pour la faire bouger, c'est pas vrai. Internet est né dans une société donnée qui avait donc ce besoin d'un réseau de communication plus efficace que ce que permettent les journaux imprimés et la télévision. Il ne faut pas voir Internet comme la cause du mouvement. Le mouvement était déjà là, le ver était déjà dans le fruit. Donc Internet est la conséquence d'une société qui est en train de changer. Et il se trouve qu'Internet est l'outil qui permet, c'est l'outil qui a choisi cette société pour changer et pour avancer. Ça peut être un outil qui serve à régresser, hein, de même que la presse écrite, ça sert soit à la liberté de la presse, soit à la propagande, c'est au choix. Mais je veux que vous ayez cette idée en tête qu'Internet est un outil, c'est la cause d'une partie des changements, vous voyez très bien la quantité de changements liés au réseau dans ce qu'on fait tous les jours. Les plus jeunes ne le voient pas, parce qu'ils trouvent ça normal. Mais les plus anciens, qui ont connu le monde de juste la presse, papier, radio, télé, voit très bien qu'Internet change des choses et force du mouvement. Et il ne faut pas croire que Internet est une cause externe. C'est les sociétés humaines qui sont en train de changer et qui ont généré Internet. Et donc, pour moi, un des éléments de lecture de cette pression qu'exerce le réseau sur la société, c'est la façon dont les politiques le traitent. En fait, dont les opposants le traitent. Que ce soit les politiciens, que ce soit les moines copistes de DVD, que ce soit les opérateurs qui veulent jouer à faire du racket. La violence des réactions des opposants au réseau est surtout un indice de la puissance prise par le réseau. La violence des réactions des politiques tunisiens avant la révolution à des propos qui pouvaient être tenus sur des blogs était un indicateur très précis du poids qu'avaient ces blogs et du risque qu'ils représentaient. S'ils avaient été lus vraiment par personne ou par deux ou trois confidentiels dans des caves, ils auraient inquiété personne. Ils inquiétaient parce qu'ils étaient lus. Et de la même manière, plus nos politiques sont violents vis-à-vis du réseau dans leurs réponses, plus ça se lit comme étant le fait que le réseau prend de plus en plus de place. Je ne sais pas si vous avez une, si vous savez tous ce que c'est que le principe de l'action et de la réaction en mécanique. À peu près. Pas clair. Quand je pose la souris sur la table, je suis d'accord, si je la lâche, elle tombe. Elle s'arrête de tomber sur la table. Là, elle descend pas. Je suis formel. Pourtant, son poids la pousse vers le bas. Ça veut dire que la table exerce sur la souris une pression de bas en haut très exactement égale à la pression du poids. Ce qui fait que la souris ne descend pas, mais ne monte pas non plus. Et oui, si ça poussait trop vers le haut, elle monterait. Si je m'appuie sur la souris, elle descend toujours pas. Ça veut donc dire que la force qu'exerce la table sur la souris s'est adaptée à la force que la souris exerçait sur la table. De manière à maintenir un équilibre. Tout est dans le fait que ça ne bouge pas. Pour que ça ne bouge pas alors que la pression augmente, il faut que la réponse augmente. C'est ça ce qu'on appelle l'action et la réaction en mécanique. Quand on a un équilibre, c'est que l'action est égale à la réaction. Si l'action est supérieure à la réaction, c'est-à-dire si la table n'arrive plus à pousser assez fort, le tout va descendre. C'est ce qui se passe quand un éléphant marche sur une canette de coca. Vous voyez, la canette descend. Il y a un moment, elle ne peut plus réagir. Et plus l'action et la réaction sont puissants, c'est-à-dire plus les forces en jeu sont grandes, plus l'énergie libérée quand ça cède est grande. C'est-à-dire que s'il y a un demi-litre d'eau posé sur la table au moment où la table s'effondre, la quantité d'énergie qui se libère n'est pas très grande. S'il y a un 38 tonnes posé sur une aiguille sur la table au moment où elle s'effondre, la quantité d'énergie en jeu est grande. Plus la pression est forte, plus ça pète fort quand ça lâche, en gros. Et vous pouvez lire la brutalité des propositions de nos politiques en matière d'Internet comme étant exactement la mesure de la réponse qu'ils ont à la pression que le réseau exerce sur eux. Plus leur réponse est brutale, plus ça veut dire que le réseau pousse fort. La grande question, c'est quand est-ce que ça va craquer et à quel point ce sera brutal. Ah, dans quel sens ça? J'ai pas tellement de doutes. Je suis à peu près convaincu que depuis Gutenberg, il était évident, Gutenberg 1445, qu'il y aurait un jour une loi sur la liberté de la presse, 1880 en France, 440 ans pour que ça cède. Donc voilà, pour moi, faut pas croire que Internet est une raison exogène qui pousse sur la société. Internet est le morceau de la société qui est en train de grossir et de pousser les autres parce qu'il ne marche pas bien, parce qu'il ne marche pas assez bien. Voilà. Si vous avez des questions, je pense qu'on doit avoir à peu près 3 minutes pour les questions. Il y en a une là, il y en a une derrière.
Bon, bah, Emmanuel Aguet, j'ai une question. En fait, vous avez parlé de guerre, et j'aimerais savoir quelle vision vous avez d'une éventuelle fin de guerre prochaine. Je peux reposer ma question.
J'ai pas parlé de guerre. De quelle guerre?
Non.
De quelle guerre ai-je parlé?
Entre les différents acteurs, en fait.
Ah.
Par exemple, les moines copies de DVD.
Bah, oui, alors faut faire attention avec les mots parce que Moi, je parle de guerre comme deux commerçants se font la guerre, c'est-à-dire qu'ils lancent pas forcément des bombes, hein, c'est pas forcément des trucs si violents que ça, il y a assez peu de morts. Quand est-ce qu'elle s'arrêtera? Quand un des deux acteurs sera mort ou quand les deux auront décidé de faire la paix? Moi, je pense qu'elle s'arrêtera jamais vraiment. Quand s'est arrêtée la guerre entre guillemets entre les politiques d'un côté et les tenants de la liberté d'expression de l'autre? Jamais vraiment, en fait. Même dans les régimes les plus merdiquement autoritaires de la planète, il y avait toujours trois fondus qui publiaient une feuille de chou dans une cave avec une machine à alcool pour faire des ronéos et qui diffusaient des trucs. Qui en général finissait en prison, finissait tué, finissait. Mais il y en avait toujours qui repoussaient. Et même dans les pays les plus libéraux, les plus ouverts, etc., sur la liberté d'expression, il y a toujours au moins une pincée de vraiment frappadingue que le gouvernement intercepte parce qu'il n'y a pas moyen, quoi. Enfin, ceux-là, c'est trop des fous. Et donc on n'est jamais 100% d'un côté et 100% de l'autre. Donc. Même dans les pays où la liberté d'expression est la plus grande, il y a quand même des gens qui se battent pour essayer qu'elle soit encore plus grande. Et même dans les pays où on pense qu'elle est totalement inexistante, il y a quand même des gens qui arrivent à s'exprimer. Donc, je pense pas que ça s'arrête. Je pense que ça trouve un point d'équilibre socialement plus acceptable que les idioties actuelles. Et ça, je sais pas quand.
Bonsoir, Jean Pachet. Il y a un certain nombre de théoriciens qui ont travaillé sur la psychologie des groupes. Gustave Le Bon, Freud, Chacotin. Est-ce que vous pensez que tous les travaux sur la psychologie des groupes sont en train de changer, sur le comportement des groupes est en train de changer avec l'arrivée du réseau, comme vous dites, ou de l'Internet? Deuxième aspect, est-ce que le fait du changement actuellement du tweet est en train, du tweet et du Facebook, de cette typologie de comportement de réseaux sociaux est en train de changer l'utilisation de l'Internet?
Alors il y a deux bouts de questions et je ne suis pas vraiment compétent sur la première. Comme je ne connais pas bien les travaux des gens qui ont bossé sur les comportements de groupe, je suis très mal à l'aise pour en parler. Moi, j'ai constaté, du haut de ma grande expérience, où je suis un et où je ne suis pas sociologue, donc ça vaut à peu près pas lourd, que les groupes d'internautes sont sujets à des mouvements de foule qui ressemblent aux mouvements de groupe de la vraie vie, mais qui ne sont pas les mêmes, qui peuvent s'enflammer beaucoup plus vite, mais qui peuvent s'arrêter très vite, là où les mouvements de foule dans la vraie vie s'arrêtent moins facilement. S'enflamme pas sur les mêmes sujets, donc j'ai l'impression que c'est pas complètement équivalent. Les structures sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'un mouvement de foule, dans une vraie foule en viande, avec de la chaleur et avec de la viande humaine, finit toujours par dégager un leader. Les mouvements de foule numériques, en général, ne dégagent pas de leader. Donc ça m'a l'air d'être différent, même si voilà, j'ai pas la science pour savoir étayer mes propos. La deuxième partie qui est est-ce que Facebook et Twitter sont en train de changer les usages d'Internet? Alors je vais revenir au transparent qui expliquait. Plouf, plouf, plouf. Alors c'était cette diapo-là. Les gens qui sont arrivés à hauteur avant l'époque des blogs, avant qu'on parle de 2.0 et avant que le grand public débarque sur Internet, ils n'ont rien attendu de personne. Par contre, les gens qui ont cru qu'Internet avait été inventé en 2004 quand ils ont acheté la DSL chez Darty, et qui, depuis 2004 où ils ont acheté la DSL chez Darty, progressent et cheminent, découvrent des usages. L'usage Twitter, ça se situe quelque part entre lecteur et râleur. C'est le moment où on lit des articles et on les commente. En fait, Twitter, ça sert pas à dire « je suis allé faire caca ». C'est en général l'usage du kikoulol, ça. Twitter, ça sert à dire « j'ai lu ça, c'est intéressant ». Et où je propose aux gens qui, d'habitude, accordent un tout petit peu d'importance à mon avis, je leur propose de le regarder parce que ça avait l'air... Moi, je l'ai trouvé intéressant et donc, s'ils me font relativement confiance, ils peuvent aller regarder. En fait, je fais ma revue de presse, en quelque sorte. Et donc Twitter est une façon de diffuser de l'information et des râleries. Ce sont mes râleries personnelles que je diffuse. C'est un usage du réseau qui existait avant Twitter. On le faisait avec d'autres outils. On échangeait ça. Les liens comme ça, on se les échangeait sur IRC avant Twitter. Ou on se les balançait sur MSN en disant aux potes « Ah, regardez, j'ai lu ça, c'est bien. » Voilà, c'est une activité qui avait lieu ailleurs. Je crois elle correspond à un nouvel usage pour les gens qui étaient encore à l'étape petit coulol et qui passent à lecteur puis râleur et qui du coup utilisent Twitter parce que l'outil existe. Pour eux, c'est une progression. C'est pas une progression du réseau, il y avait d'autres outils. Quand cet usage-là apparaissait, on trouvait d'autres outils pour le faire. Twitter est pratique. Mais on le faisait avant. Et Twitter a pas du tout été pensé pour ça. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit Twitter, eux, ils pensaient que les gens disaient « je vais faire caca ». Et ils se demandaient bien pourquoi les gens le diraient, mais enfin, ils ont lancé ça. Mais ils ne pensaient pas que ça donnerait ce résultat-là.
Est-ce qu'on peut abréger un peu ? Parce
voilà.
On va nous mettre dehors.
Là, j'ai fait le tour. Donc, s'il y a une ultime question.
Ouais, la
mère. Oui, bonsoir. Compte tenu du temps qui nous est imparti, ma question serait très brève. En fait, je me posais la question de savoir si, avec l'évolution de la technologie, avec l'Internet aujourd'hui, est-ce que nous ne serons pas, n'est-ce pas, comme disait certains versets dans la Bible, que l'Internet serait la tour de Babel. Vous savez ce qui s'est fait avec la tour de Babel. Est-ce qu'on n'a pas peur de cet événement dans le monde aujourd'hui?
Suis-je censé répondre? Est-ce qu'Internet est la tour de Babel? Non. Non, je crois pas. Et est-ce qu'il y a des raisons d'en avoir peur? Ouais, moi j'ai pas peur de Noé non plus. Enfin, j'ai pas peur du déluge. Je sais pas. À vrai dire, je me suis pas posé la question. J'ai besoin de l'outil pour parler avec les gens, je m'en sers. Si les religieux pensent que c'est péché de parler avec les gens, bah tant pis. Ça me... Comment il disait Chirac, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Voilà, c'est pas... le péché dans la tour de Babel, pour essayer de donner une réponse un peu moins débile à une question religieuse, le péché dans la tour de Babel, c'est de vouloir atteindre Dieu. C'est ça, c'est les gens parlaient tous la même langue, ils ont construit la tour de Babel pour monter au paradis en trichant, en passant par l'escalier, plutôt que par la voie où il faut ressusciter et tout le tintouin. Ils ont triché en voulant atteindre Dieu. Internet prétend pas à atteindre Dieu, il prétend juste à ce que les gens puissent discuter. Ça va pas plus loin. Pour moi, il n'y a pas de lien avec la tour de Babel, parce qu'on prétend pas à atteindre Dieu, on prétend juste à discuter.
On peut peut-être en discuter au bar.
Mais je pense que voilà, ça peut se discuter au troquet.